Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Dans 100 jours, ce sera le début des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En effet, ils n'ont pas changé d'année ou de nom, bien qu'ils aient été décalés d'un an pour cause de pandémie. Cette pandémie qui continue et qui fait encore peser des interrogations sur le déroulement de ces Jeux censés célébrer la victoire de l'humanité sur le coronavirus. Mais le nombre de cas augmente au Japon et ailleurs. La jauge sera réduite dans des stades réservés aux Japonais dont la majorité semble ne pas vouloir de l'événement. Les JO de Tokyo seront-ils des Jeux au rabais, c'est la question du jour. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui par téléphone. Patrice Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien multiple champion du monde et d'Europe de ski nautique, désormais président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard, et vous êtes vice-président du Comité national olympique et sportif français. Et Éric Monin, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes vice-président de l'Université de Franche-Comté, directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire. Et enfin, Pim Verschuren, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Université de Lausanne, spécialiste de la gouvernance, de l'intégrité et de la géopolitique du sport. Patrice Martin, dans le mouvement sportif français, est-ce que ces Jeux de Tokyo sont aussi attendus que d'autres Jeux olympiques? Est-ce qu'il y a la même excitation?
Il y a la même excitation, il y a même envie, d'autant plus que c'est un an d'attente complémentaire avec toute l'attente, ce qu'on a pu vivre avec la crise du coronavirus. Et je pense que le fait d'avoir ces Jeux, c'est l'envie de se retrouver d'une manière ou d'une autre dans ce nouveau monde qui est en train de se préparer. Et pour moi, voilà, dire clairement, on peut pas dire que ce sont des jeux au rabais, ce seront des jeux forcément différents.
Des jeux différents. Je poursuis avec vous, Patrice Martin, avant de donner la parole à nos autres interlocuteurs. Est-ce que ce décalage d'un an, est-ce que les conditions dans lesquelles ça s'annonce, ça modifie la préparation des sportifs, forcément?
Ça la modifie parce que un décalage, une préparation qui était en cours ou dans sa finalisation en 2020, et il a fallu tout reprendre, décaler d'une année avec les objectifs de jeunes athlètes, des carrières qui étaient en attente de fin de carrière pour certains. Donc forcément, il y a une modification dans la préparation, une difficulté dans la préparation, parce que vous le savez, tout le monde n'a pas pu pratiquer dans les mêmes conditions, même si aujourd'hui, dans les questions et les conditions sanitaires prévues dans le cadre des préparations, il y a des aménagements qui ont été faits, notamment pour les athlètes olympiques. Malgré tout, les confrontations prévues, notamment sur des TQO dans certaines disciplines, on a bien vu qu'il y a eu des annulations ou des reports. Et bien sûr, ça change complètement la préparation pour nombre d'athlètes, et pas seulement français.
Éric Monin, le relais de la flamme olympique s'était lancé il y a quelques jours de Fukushima, c'était à la fin mars. Vous y avez participé virtuellement d'ailleurs, vous allez peut-être nous expliquer ça. Et est-ce que c'est suivi par les Japonais?
Alors déjà, tout d'abord oui, j'ai fait partie du relais de la torche olympique de Tokyo, mais malheureusement je devais porter la flamme sur le sol grec avant qu'elle s'envole pour Fukushima. C'était l'an dernier, c'était le 15 mars 2020. Donc en fait, j'étais un des porteurs, mais comme vous le savez très bien, comme nos éditeurs le savent, hein, le 12 mars 2020 en France, notre président de la République donc nous a annoncé ce confinement. Hein, et donc malheureusement, je n'ai pas pu porter cette torche dans laquelle normalement je devais faire part, notamment du relais. Alors, simplement, pour vous rajouter par rapport à ça, c'est que ce qu'a dit très justement Patrice Martin, notamment sur le mouvement olympique, sur les athlètes, hein, qui à mon avis, c'est des informations très précieuses qui viennent nous être données. Je crois qu'il faut dire une chose quand même qui est assez méconnue, c'est qu'en septembre 2019, eh bien, les Japonais, bien avant la crise du coronavirus, hein, qui a été dite notamment dans le monde avec le directeur de l'OMS en décembre 2019, eh bien, les Japonais font venir sur le sol, donc, de leur pays, quatre virus les plus dangereux de la planète, hein, notamment le virus Ebola, le virus de Marbourg et deux autres, pour les étudier, pour éviter toute pandémie. Nous sommes en septembre 2019, c'est incroyable, pour éviter toute pandémie et surtout, être capable de confectionner dans la rapidité des tests sérologiques, salivaires ou urinaires, Et on apprend 3-4 mois plus tard que ce ne sera pas un des 4 virus venus sur le sol nippon, mais que ce sera le coronavirus. Cette prémonition est assez incroyable, en sachant que c'est la première fois que ça arrive, notamment dans le cadre des Jeux. Voilà.
Pim Verschuren, on va rester sur le sujet sanitaire. Le Japon vaccine très peu, il faut le savoir, on ne sait pas forcément, et craint donc une quatrième vague dans des proportions évidemment beaucoup plus limitées par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'il y a quand même une crainte, et ça vient d'être un peu exprimé d'une certaine manière par Éric Monin, par rapport à l'arrivée d'étrangers sur le sol japonais au moment des Jeux olympiques et paralympiques?
Oui, bien sûr, il y a une crainte vis-à-vis de l'arrivée massive de personnes issues de l'extérieur, et on peut contrôler au niveau national éventuellement, quoi qu'on a vu que c'était difficile, mais contrôler les 193 nationalités qui seront présentes sur le sol japonais, là, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est issu de contextes bien différents et des pays, notamment, où il n'y a pas forcément la même expérience sanitaire qu'au Japon. Et c'est vrai que je crois que c'est surtout toute la préparation dans les 100 derniers jours qui va être cruciale parce que, on le sait bien, on a tous vécu personnellement et au niveau collectif, on peut pas prévoir quoi que ce soit avec l'évolution de ce virus. Et c'est vrai qu'un événement si important, si massif, prévu pour un jour J, on peut aujourd'hui, 100 jours avant, rien prévoir sur l'évolution précédemment. Donc il peut y avoir une quatrième vague, une cinquième vague, qui peut être plus ou moins importante. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut pas prévoir cela. Et je crois que c'est toute la difficulté pour les organisateurs, pour le CIO et pour aussi les mouvements sportifs nationaux de tous les pays, de prévoir l'impossible, l'imprévisible. Et donc, je crois que c'est ça aujourd'hui qui nous amène à être très humbles sur l'évolution de la préparation et sur la réalité de ces Jeux Olympiques, s'ils auront lieu dans les prochains mois.
Oui, alors Patrice Martin, je rebondis sur ce qui vient d'être dit par Pim Verschuren. Est-ce qu'on peut, il vient de dire, s'ils ont lieu, est-ce qu'on peut être tout à fait certain que ces Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu, Patrice Martin?
Pour moi, économiquement, et au travers des choix qui ont été faits par COJO, c'est le coût de l'annulation, 59 milliards de dollars. De le tenir à huis clos, c'est 11 milliards de dollars. De le tenir avec une jauge minimale, c'est 19 milliards de dollars. En gros, pour moi, le choix, il est vite fait et les Jeux se tiendront. Maintenant, on ne peut pas lire dans l'avenir aujourd'hui, mais tout est fait en tout cas pour qu'il soit maintenu. Et c'est un besoin, je vais dire, au-delà de ce côté économique, c'est aussi un besoin sociétal pour une relance et un optimisme de relance à une échelle mondiale.
Oui, le monde, pas seulement sportif d'ailleurs, le monde a besoin de respirer tout simplement, de voir ces Jeux.
Oui, pour moi, oui, et je vais reprendre en idée quelque part les Jeux post-Deuxième Guerre mondiale qui ont contribué à une relance intellectuelle, émotionnelle, avant une reprise économique. C'est aussi là-dessus l'impact du sport et au-delà du côté physique, de la santé physique, du développement du corps, c'est aussi sur tout l'esprit et pour la santé psychologique. Et le bien-être de l'ensemble de la communauté, bien au-delà du sport.
Éric Monin, pour obtenir les Jeux, il faut qu'il y ait un soutien fort de la population. Et or, les tout derniers sondages, il y en a encore évidemment qui, à l'occasion de ces 100 jours avant les Jeux, sont parus ce matin dans la presse européenne, ces tout derniers sondages indiquent que les Japonais interrogés sont très largement en faveur d'un nouveau report, voire d'une annulation complète. Ça vous inspire quoi?
Mais,
on est sur 70% sur ces deux hypothèses.
Oui, alors il faut faire très attention. Alors déjà, le nombre de nations qui iront au jeu, ce qu'on appelle les comités nationaux olympiques, il y en a exactement 206, par rapport au chiffre qui a été donné tout à l'heure. Donc en fait, je voudrais dire que attention au sondage, parce que si je prends un des derniers sondages Odoxa pour RTL qui est sorti, 72% des Français attendent avec impatience ces Jeux Olympiques parce qu'ils vont être rassembleurs.
Oui, mais là, je vous parle des Japonais, Éric Monin.
Voilà. Alors, les Japonais, quand même, moi, j'ai un dernier sondage aussi, qui date, effectivement, il date de février, on est d'accord, de Shimbun, qui dit que 58% des Japonais sont opposés pour des risques sanitaires. Je crois, et on l'entend, et notamment en plus des chiffres que vous avez donnés, ça, c'est clair. Mais comme l'a très justement dit Patrice Martin, moi, il me semble, c'est que ces Jeux apportent un souffle un souffle d'espoir dans ce nouveau monde. Et les choses vont être compliquées. Mais vous savez, si on fait de la prospective dans 30, 40, 50 ans, comme l'a très justement dit Patrice Martin, ces champions olympiques seront des champions olympiques à part entière. Et effectivement, on peut avoir plein de réticences, je le crois. Mais comme ça a été dit, en 1948, l'Europe est dévastée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut trouver un emplacement pour, tant bien que mal, faire ses Jeux. Je rappelle que la vieille Europe est tout le temps, avec des tickets de rationnement. Il y a un rationnement qui est bien réel. Et pourtant, on projette quelque chose, on projette de l'espoir, on projette du positif, du bien-être. Et c'est entendable, tout ça, comme ça a été dit, il peut y avoir une troisième, une quatrième, une cinquième vague. Mais au-delà de tout ça, ce nouveau monde se projette. Et c'est ça qui est intéressant.
Pim Verschuren, je reprends un peu ce que disait Patrice Martin il y a quelques instants. Est-ce qu'au fond, on tient à faire ces Jeux parce qu'il faut les faire pour des raisons économiques ou peut-être, j'ouvre une autre porte, de fierté nationale pour le Japon ?
Ah oui, très clairement. Il y a plusieurs parties prenantes. Hein, et c'est vrai que pour le mouvement sportif international, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, de pouvoir récupérer l'argent issu des Jeux Olympiques pour pouvoir financer des projets sportifs, le développement sportif dans tout un ensemble de comités olympiques nationaux, bien sûr. Et pour le Japon, encore plus, qui a consenti un effort financier extrêmement important pour les infrastructures, pour la préparation, qui va payer le plus gros coût en termes de sécurité, en termes de consignes et d'ordre sanitaire également. Donc c'est vrai que finalement la surfacture, le surcoût de ces Jeux liés à ce décalage, au fait qu'ils aient été repoussés d'un an et liés au contexte sanitaire, c'est le Japon qui l'a vraiment payé. Donc on espère aussi que pour le Japon, ils vont pouvoir profiter effectivement de Jeux post-pandémie, ou en tous les cas qu'il y a un espoir collectif derrière ces Jeux pour que le Japon puisse aussi avoir des bénéfices de ces Jeux qui auront coûté si cher. Et je pense que si une partie de la population japonaise est aujourd'hui contre les Jeux tels qu'ils sont prévus actuellement ou dans le contexte actuel, c'est aussi parce qu'ils voient bien que ça coûtait extrêmement cher et que au final c'est eux qui vont aussi payer la facture. Donc je pense que ça peut expliquer une partie du mécontentement populaire au Japon.
Oui, Patrice Martin, est-ce que ces Jeux de Tokyo, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas un peu mal nés dès le départ ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de malédiction ? On parlait du coût des infrastructures. Au tout départ, le stade olympique de Tokyo, qui était le même que celui de 1964, qui a été détruit et entièrement refait, c'est le stade le plus cher du monde.
Oui, forcément. Des fois, on enchaîne les problèmes et on enchaîne les difficultés. Et Tokyo, je pense, vit une histoire malheureuse avec les Jeux. D'autres en parleront mieux que moi, mais il me semble que dans le passé, il y a eu des Jeux à Tokyo qui ont été annulés du fait de la guerre et que. Cette volonté de fêter les Jeux et de tout organiser, de même prévoir une pandémie en amenant sur son sol quatre virus, et puis finalement, c'est pas celui-là, il se passe quelque chose. Des fois, les choses sont écrites, mais comme je vous dis, l'histoire retiendra que ces Jeux auront eu lieu post-pandémie et auront ouvert la voie à une nouvelle façon d'organiser les Jeux et qui sera faite par les Japonais et qu'ils l'auront créé avec l'expérience qu'ils peuvent avoir, parce que ce sont des gens aussi, les Asiatiques, qui prévoient tout.
Qui sont très organisés, effectivement. Éric Monin, la Corée du Nord a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas aux Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que d'autres pays pourraient le faire, hein ? Ils ont été reportés notamment parce que l'Australie et le Canada, en 2020, avaient annoncé qu'ils n'iraient pas.
Mais vous savez, effectivement, il y a toujours des annonces comme ça. Excusez-moi, je voudrais simplement ouvrir une parenthèse par rapport à ce qu'il y a dit dans les forces, qui est fort intéressant. C'est que moi, je crois que Tokyo, il y a déjà une super victoire dont on ne parle pas beaucoup. Il y a une vraie victoire. C'est la place de la femme au Japon. Suite aux propos très sexistes de Yoshiro Mori...
L'ancien patron du comité d'organisation.
Voilà. Ancien patron du Kojo. C'est une vraie victoire pour le Japon, notamment de la place de la femme au Japon.
Il a été remplacé par une femme.
Voilà, de Seiko Hashimoto, qui fait qu'on a une femme qui est présente du COJOP, et ça n'en parle pas assez parce que vous voyez, on souvent pointe du dos ce qui va pas, ou on dit ce qui va pas. Mais il y a une vraie victoire avant le début des Jeux, c'est la place de la femme au Japon avec Hashimoto. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et effectivement, comme l'a très justement dit Patrice Martin, Tokyo, c'est Tokyo la maudite. Tokyo la maudite. Hein, vous savez qu'on parle beaucoup de Tokyo, mais Tokyo va avoir les Jeux en 64 de nouveau. Et c'est un peu Tokyo la maudite en 64 parce que le sport roi là-bas, c'est le judo. Et on a Kaminaga, qui normalement devrait faire champion olympique, et qui est battu par Anton Gezing, le géant hollandais, qui va terrasser Kaminaga. On a l'impression qu'il y a quelque chose lorsque Tokyo propose de devenir ville haute. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui, il y aura toujours des effets d'annonce sur telle ou telle nation qui n'iront pas, mais attention, j'ai eu l'occasion par le passé d'étudier beaucoup les boycotts, boycotts de nations, boycotts de personnes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les boycotts ont toujours été assez, dans leur manière d'être, n'ont pas une influence qu'on pourrait l'imaginer. Donc oui, il y aura toujours des effets d'annonce, mais ça n'a eu aucune portée par le passé. Je pense aux Jeux de 56 à Melbourne, je pense en 76 à Montréal, en 80 à Moscou, en 84 à Los Angeles.
Oui, donc s'il manque des pays, les médailles auront toujours la même valeur. Ce sera toujours des champions olympiques comme les autres. C'est ce que vous voulez dire?
Absolument, parce que pour qu'il y ait des Jeux qui soient touchés réellement par un boycott, il faut deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait pour attirer personne qui aille aux Jeux. Et la deuxième chose, il faut que le niveau soit tellement faible, qui ne représente rien du tout en termes de victoire. Donc, par le passé, on a bien eu, notamment à Moscou, 64 nations qui ne sont pas allées, et pour autant, les Jeux se sont faits. On a eu des grands champions qui ont été nommés champions olympiques. Je pense notamment à Angelo Parisi, le judoka en poids lourd. Voilà.
Pim Verschuren, il y a des pays qui manquent actuellement cruellement de vaccins et où la situation est très difficile. Je pense à des pays d'Amérique latine comme le Brésil ou en Afrique d'ailleurs, par exemple. Est-ce qu'il peut y avoir des athlètes absents pour des raisons sanitaires parce que le Japon réclamerait que tout le monde soit vacciné?
Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne pense pas qu'on réclame aujourd'hui
c'est pas encore le cas,
mais... que les athlètes ne soient pas vaccinés. Voilà. Mais bon, on va voir aussi les prochains mois. Mais de toute façon, ça a été dit en début d'émission, forcément, la préparation des athlètes est tronquée. Enfin, c'est très difficile de se préparer dans ces conditions, dans certains pays encore plus que d'autres. Donc, bien sûr, les athlètes qui vont se présenter aux Jeux Olympiques cet été n'auront pas forcément les meilleures conditions de préparation. Ça, on le sait, et je pense que bon, les athlètes, ils font de leur mieux pour se préparer, et pour eux, c'est aussi l'aboutissement d'un projet de vie, d'un morceau de leur vie. Donc, pour eux, c'est aussi important que les Jeux Olympiques se tiennent. Après, voilà, sur les conditions de préparation, c'est très difficile. Heureusement, les comités olympiques nationaux, essayent de les aider autant qu'ils peuvent. Mais bien sûr, il y aura des difficultés, des athlètes qui seront testés positifs quelques semaines avant l'événement, qui pourront pas venir ou qui seront en quarantaine sur place. Voilà, il faut s'attendre de toute façon à des difficultés logistiques de cet ordre. Ça, c'est inévitable aujourd'hui. On le voit bien avec d'autres compétitions sportives qui se sont tenues, comme l'Open Australie au tennis ou les compétitions de football actuellement en Europe, où on est toujours dans les aléas de ces tests, des quarantaines, ça va forcément toucher les Jeux Olympiques.
Ouais. Oui, le CIO prévoit-il de vacciner lui-même, d'acheter des vaccins, et prévoit-il de vacciner lui-même les athlètes qualifiés? Est-ce que ça, c'était quelque chose qui est étudié à Lausanne?
Et je pense que c'est à l'étude actuelle. Je sais que la Chine avait proposé de fournir des vaccins. Bon, voilà, les vaccins ont aussi leurs propres aléas qui les concernent. Donc je crois que le CIO attend... avant d'administrer des vaccins. Est-ce que ça va être sur la base du volontariat ou pas? Ça, je sais pas. Je peux pas le dire. Peut-être que les autres intervenants auront plus d'informations que moi là-dessus.
Mais Patrice Martin, je vous pose la question. On sait qu'il y a une grande solidarité des fédérations sportives françaises avec les fédérations africaines. Je pense à l'athlétisme notamment. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des solidarités vaccinales comme ça entre les fédérations pour aller aux Jeux Olympiques?
Tout d'abord, moi je dis qu'il faut attendre les décisions d'organisation entre le Japon, le pays hôte, et le CIO pour savoir qu'est-ce qui sera décidé et qu'est-ce qui serait obligatoire. Maintenant, il faut se poser la question aussi de la volonté de vouloir être vacciné ou pas des athlètes, parce que tous ne souhaitent pas forcément être vaccinés, même si on pense qu'il faut être vacciné pour être protégé. Voilà. Après, il y a un choix personnel et on regardera qu'est-ce qu'il faut pour aller au jeu. Ça, c'est la première chose. Après, sur l'organisation en elle-même, on sait que on arrive dans un temps qui va être restreint et qu'il va falloir faire vite, parce que si on est sur un vaccin avec deux injections, le délai entre les deux, il va falloir prendre ses décisions très rapidement pour mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner les athlètes. Et bien sûr, la France a toujours été un pays qui a accueilli l'ensemble des pays et les accompagnés, et notamment les pays africains. Mais voilà, il y a des réseaux, notamment de pays francophones également, et il y aura cette solidarité, et cette solidarité qui est forte et qu'on reconnaît même au niveau olympique.
Techniquement, je reste avec vous, Patrice Martin. Comment ça peut se passer d'accueillir plus de 10 000 athlètes et membres de délégation, plus de nombreux journalistes, hein, plusieurs milliers de journalistes également. Il va y avoir des quarantaines, des places limitées en tribune. Comment ça va se passer?
Je pense déjà, dans l'accompagnement, ce sera très limité. Déjà, c'est déjà en discussion, mais au travers des équipes d'accompagnement des différentes disciplines, de l'accompagnement des CNO et des journalistes, il y aura un quota qui sera limité. Et je pense que c'est là où on va voir aussi dans ces nouvelles façons d'organiser les JO, il va y avoir une évolution dans le traitement proposé par les différents médias, avec beaucoup moins des clips sur place et puis des commentaires qui seront faits à distance notamment. Et alors c'est vrai que ce sera aussi vraisemblablement un petit problème, parce que c'est un moment de vie d'athlètes qui sont accompagnés par leur famille. Et c'est vrai que cet accompagnement sera aussi limité, et on vivra ces événements à distance pour beaucoup de fans et de familles des athlètes qui seront sélectionnés au JO.
Ouais, Éric Monin, ça va quand même pas être la fête que c'est d'habitude dans les villages olympiques notamment.
Oui, non mais vous avez absolument raison. C'est que vous savez, les Jeux, moi j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs Jeux, pas en tant qu'athlète, mais en tant que chargé de mission. Et la fête, elle n'est pas uniquement dans le stade, elle n'est pas uniquement au village olympique, mais elle est dans la ville, elle est dans l'environnement, elle est dans le pays en entier. Et c'est ce qu'on va voir notamment en 2024 avec la terre de jeu, avec la centre de préparation des jeux, etc. etc. Il y a véritablement une émulation qui se passe même à l'extérieur. Il y a de la convivialité, il y a un amour du sport qui fait qu'il y a une certaine légèreté au bon sens du terme, où les gens se retrouvent, font la fête entre eux. Et malheureusement, ça c'est incontestable, il n'y aura pas ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je crois que malheureusement, ces jeux auront une vision un petit peu réduite de ce que sont réellement les jeux, et ça laisse penser que les nouveaux jeux du nouveau monde, ça sera par 2024. Voilà, ouais. Les choses sont résolues, bien évidemment.
Oui, bien sûr, parce que c'est pas encore sûr. Je reste avec vous, Éric Monin. Est-ce qu'on donne le meilleur de soi-même devant des tribunes à moitié vide ou sans le soutien de ses supporters ou de ses proches, comme le disait Patrice Martin il y a quelques instants? Est-ce qu'on est autant à fond?
Écoutez, de toute façon, les sportifs, ce sont des sportifs professionnels, ce sont des personnes qui font leur travail, et je serais tenté de dire que, vous savez, pour aller au jeu, il faut déjà obtenir son ticket pour aller au jeu. Il faut dans les meilleurs mondiaux, et ça fait maintenant plus d'une année qu'ils le vivent comme ça, les sportifs de haut niveau. Donc je crois que ces sportifs sont des vrais professionnels. Malheureusement, effectivement, il n'y a pas cette ambiance que l'on connaît, hein, c'est incontestable. Mais je crois que, comme je l'ai dit précédemment, ils vont faire leur travail, et dans 2, 3, 4, 5 Olympiades, eh bien, ils seront champions olympiques comme les autres, et pourtant, il n'y aura pas eu cette simulation. Donc, moi, je crois que ce n'est pas une vraie question au sens est-ce que ça va atteindre les sportifs ou pas. Je crois qu'ils vont faire leur travail comme ils ont l'habitude de faire depuis maintenant un an.
Je reviens vers vous, Patrice Martin, et je ne vous oublie pas, Pim Verschuren, hein, rassurez-vous. Ça donne quand même un supplément d'âme, le public.
Forcément, Mais voilà, il faut s'adapter. Et puis, vous savez, je pense que la plupart des athlètes, même si on pense toujours qu'il y a l'avantage du terrain, qu'on est chez soi, on a notre public, il y a le, on appelle souvent, voilà, c'est l'homme supplémentaire, ce supplément d'âme qu'on peut avoir pour se transcender, bien sûr. Mais à un moment ou à un autre, quand on est dans son action sportive, beaucoup d'athlètes font aussi le vide autour d'eux et à ce moment-là, ils n'entendent plus rien, sauf leurs muscles se contracter et leur esprit être concentré sur leurs actions. Donc voilà, il y a deux choses à voir. Ça, cette émulation qu'il peut y avoir grâce au public, mais dans l'action sportive en elle-même, il y a tellement de concentration et de précision que je crois qu'ils font aussi le vide autour d'eux et les meilleurs, forcément, et les champions, forcément, sauront faire abstraction de tout ça.
Pim Verschuren, vous êtes à Lausanne, le siège du CIO. Comment Thomas Barr évoque ces Jeux de Tokyo à venir? Il est dans le combat, si j'ose dire, pour que ça ait lieu?
Oui, bien sûr, c'est son combat, il vient d'être réélu, et forcément, son image va aussi dépendre du début de Tokyo 2020, hein, bien sûr, 2021 maintenant. Donc, dans sa communication publique en tous les cas, et c'est le cas de tout le mouvement sportif international, on ne pense pas, en tout cas on ne communique pas sur un nouveau report ou une annulation des Jeux Olympiques, pourtant reste... quitte à apparaître jusque boutiste, étant donné le contexte actuel qui est difficile dans certains continents, ils n'en démordent pas, ils veulent rester sur leur ligne d'organisation cet été. Et comme on l'a déjà parlé, on peut comprendre vu l'intérêt économique et vu effectivement si jamais la pandémie et la situation s'améliore d'ici là, effectivement ça pourrait être les Jeux du renouveau. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, hein, bien sûr, pour ces Jeux Olympiques. Mais ma grande crainte à moi, c'est qu'on soit dans un décalage entre une situation internationale qui soit certainement difficile, avec des souffrances, avec des sacrifices dans de nombreux pays, et en particulier au Japon, si ça serait le cas, dans une vision pessimiste, et quand on est dans une position jusqu'au boutiste où on veut absolument organiser ces Jeux, quitte à perdre un peu la vision sur la réalité sociétale au-delà du sport. C'est ça ma crainte, hein. Bien sûr, c'est une piste, et je me souhaite...
Je vais vous couper, Pim Verschuren, parce que la ligne est devenue un petit peu mauvaise, on vous entend pas bien. Je vais retourner vers Patrice Martin. Est-ce que, on le disait, hein, vous l'aviez dit, et Éric Monin le disait aussi, est-ce que finalement, les prochains vrais Jeux Olympiques et Paralympiques d'été, ce seront pas ceux de Paris 2024? Et qu'est-ce que cette situation apprend au comité olympique et aux organisateurs français pour Paris 2024?
Ils sont dans la préparation, si vous voulez. On peut pas.
Est-ce qu'il y a des enseignements, tout simplement, quoi? Voilà.
Il va y en avoir, mais au travers de ce qui sera vécu. Les enseignements. Aujourd'hui, vous savez, la transmission de cette flamme olympique, du drapeau et tout ça, se font à la fin des Jeux de Tokyo. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette transmission. Par contre. Oui, ils sont à l'écoute de tout ce qui se passe aujourd'hui et de tout ce qui se fait, de toutes les solutions qui ont été trouvées pour l'instant pour l'organisation. Et ils se préparent déjà à organiser ces nouveaux jeux, enfin ce nouveau modèle de jeu, mais qui était déjà dans l'air du temps. Ce nouveau modèle de jeu du nouveau monde après Covid, après crise de la Covid.
Merci beaucoup, Patrice Martin. Je rappelle que vous êtes ancien multiple champion du monde et d'Europe de ski nautique, désormais président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard et vice-président du Comité national olympique et sportif français. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci également à Éric Monin, vice-président de l'Université de Franche-Comté et directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire. Merci enfin à Pim Verschuren. Vous êtes chercheur à l'Université de Lausanne, spécialiste de la gouvernance de l'intégrité et de la géopolitique du sport. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Pons à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Raphaël Kossoul. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
Ce mercredi, vivez.